C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Le cœur reprisé, c'est le titre d'un texte publié par Alex Marcellet sur le site de Mitsou Magazine il y a une dizaine de jours. C'est un texte qui aborde un tabou, c'est-à-dire les hommes adultes qui sont victimes d'agressions sexuelles. On le sait, il y a des enfants et des adolescents qui sont victimes d'agressions sexuelles, de proches, d'entraîneurs, de professeurs, etc. Ça arrive aussi à des hommes d'être victimes d'agressions sexuelles. Les hommes adultes en parlent beaucoup moins. C'est un tabou. Et c'est un tabou qu'a choisi de briser Alex Marcellet dans ce texte. Il est en studio. C'est un grand honneur de l'accueillir. Alex, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Qu'est-ce qui t'a décidé à écrire ce texte-là, très intime, 30 ans après ton viol?
Honnêtement, c'est un texte que je voulais écrire depuis 20 ans, mais je n'étais pas capable. J'ai cherché plein de façons de le faire. Je voulais écrire un roman, je voulais écrire un album jeunesse coup de poing. Je cherchais les mots, j'essayais, j'ai décidé d'arrêter. Puis je l'ai fait finalement parce que j'en avais besoin de le faire. Je l'ai fait pour me libérer. J'ai pensé à moi, honnêtement, je l'ai écrit pour moi, je l'ai fait pour me libérer. Puis j'avais la belle tribune de Mitsou Magazine, puis je me suis dit pourquoi tout simplement le publier, puis peut-être inspirer d'autres personnes. Mais avant tout, je l'ai fait pour moi.
C'est un texte coup de poing, troublant, et sans rentrer dans tous les détails, on va s'en tenir aux détails que tu as choisi de publier. Maintenant, tu as 48 ans. Ouais. C'est arrivé il y a 30 ans. Tu étais tout jeune adulte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe à l'université d'abord.
Ça se passe à l'université que je fréquentais, là, vraiment quotidiennement. Je buvais de l'eau à l'abreuvoir. Tout à coup, il y a quelqu'un qui s'est approché. Je ne l'ai jamais vu, qui a mis un couteau directement sous ma gorge puis qui me dit « Suis-moi ». Donc, il avait le couteau sous la gorge. Finalement, il l'a mis sur mon poignet. Donc, il l'a serré vraiment sur mon poignet en me tenant la main. Donc, mon poignet saignait beaucoup. Puis, il me dit « Ferme ta gueule et suis-moi ». Excusez le mot, là, mais c'est ce qu'il m'a dit. Alors, je l'ai suivi. Je ne savais pas trop quoi faire. Je l'ai suivi. Rendu à l'extérieur, on est allé vis-à-vis son camion. J'avais encore le poignet en sang. Il m'a lancé dans son camion. Il a enlevé tous mes vêtements. Ensuite de ça, il a remis le couteau sous ma gorge. Puis ben, c'est là que le viol s'est passé. Pendant ce temps-là, je me disais « Tais-toi, Alex. » Puis « Endure, 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 endure. Tais-toi, endure. Tu peux rien faire. » Je n'ai pas pensé me débattre parce que j'avais le couteau en dessous de la gorge. Puis c'était endure, endure, endure. Désolé, je suis émotif.
Oui.
Puis une fois qu'il a terminé, ben, il a ouvert la portière puis il m'a lancé, là, vraiment. Il m'a lancé sur le trottoir. Ensuite, il a lancé mes vêtements. Puis je suis parti en courant.
T'es parti en courant. Prends une gorgée, Alex. T'es parti en courant et t'expliques que là, le lendemain, d'abord, c'est l'anniversaire de ta mère.
Oh, le plus gros coup, honnêtement. Un des plus gros coups de ma vie. Je suis parti en courant. J'ai couru de Berry à Metropile, là, sans arrêt. Je ne sais pas comment. Je faisais froid. J'avais mis mes vêtements vite, vite, là, mais il faisait froid. J'ai couru. Un marathon, là. Zombie. Je n'ai pas arrêté aux lumières rouges. J'ai passé par des petites rues chez mon ancien copain. Je suis arrivé là. Je me suis effondré. Puis, j'ai pas bougé. J'ai pas parlé. J'ai pas pleuré. J'étais juste à terre.
Est-ce que tu lui as dit à ton chum de l'époque ce qui venait de se passer?
Non, j'ai pas été capable de le dire. Je l'ai dit par la suite. Une fois qu'il était passé minuit, j'ai réalisé que c'était la fête de ma mère. Mais je lui ai dit par la suite. Puis il essayait de me faire parler, mais pour moi, c'était « parle-en pas, c'est pas arrivé, essaye de t'oublier ça ». J'ai parlé par la suite, puis c'est lui qui m'a forcé d'aller à l'hôpital.
Tu racontes dans ton texte sur le site de Mitsou Magazine, Alex Marcellet, que les 4 années qui ont suivi ont été extrêmement difficiles.
Ça a été les pires que l'événement que j'avais vécu, parce que j'avais mis mon masque du « Alex, tout va bien, puis je veux pas que les gens s'inquiètent de moi ». Mais personne ne le savait. Ma mère savait un petit peu, là, des petits bribes de ce qui s'était passé. Mon copain, mais c'est tout. J'ai tout gardé pour moi, puis pendant 4 ans, je voulais pas déranger. J'ai tout le temps été le petit gars qui n'avait pas trop de problèmes, puis je voulais rester comme ça. Je voulais pas que les gens s'inquiètent par rapport à moi. Fait que ça a été très difficile d'avoir un masque de « Non, non, ça va bien. Tout va bien. » Donc, 4 années à vivre comme ça, c'est lourd. C'est un énorme poids sur les épaules.
Comment tu t'es délesté de ce poids-là?
La musique. La musique a sauvé ma vie. La musique qui m'a aidé beaucoup à l'adolescence, là, quand j'avais de l'intimidation au secondaire, comme la majorité des guides banlieue, là, c'est la musique. Les paroles, le monde dans lequel la musique me transportait, la folie. J'allais chercher des textes qui venaient me chercher. Puis c'est la musique qui m'a vraiment gardé en vie.
Tu as choisi de ne pas aller à la police?
Non.
Pourquoi?
Je voyais les graves conséquences d'en parler à la police. Puis je trouvais... Je ne voulais pas aller là-dedans. Encore une fois, c'est peut-être parce que dans ce temps-là, je ne voulais pas déranger. Puis je voulais juste effacer ça de ma mémoire. Mais j'ai juste choisi de ne pas le faire. J'ai choisi mon cheminement. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Comme je dis dans le texte, j'ai arrêté de me poser ces questions-là. Mais non, j'ai choisi de ne pas le faire. C'était pas pour moi.
La question de l'agression sexuelle est tabou. Ces dernières années, dans la dernière décennie, là, il y a plusieurs personnes, surtout des femmes, qui ont pris la parole, qui ont raconté leurs histoires. Puis je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Ça a été moins le cas chez les hommes.
En effet.
J'ai rarement vu, et je me souviens pas d'avoir vu, un témoignage d'homme qui publiquement dit « j'ai été violé ». Pourquoi, tu penses?
C'est la culpabilité qui vient avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Je vais faire peur à mes proches. Puis je pense aussi peut-être la virilité. T'sais, un homme, c'est fort. Un homme va pas être victime. Je pense qu'il y a tout ça qui rend je pense qu'il y a tout ça. Il y a aussi... la peur de ne pas déplaire, mais dans mon cas, c'était vraiment la culpabilité. Puis c'est peut-être pour ça que les autres hommes ne parlent pas non plus, mais ça nous arrive, puis il faut en parler. C'est ça que je me suis rendu compte. Ça m'a pris 30 ans, mais il faut en parler.
Penses-tu que c'est répandu?
Plus qu'on pense. Je suis certain. J'ai écrit ce texte-là, ça fait peut-être... Bon, il a été publié, ça fait peut-être une semaine, mais j'ai reçu une foule de témoignages d'hommes. Donc oui, c'est répandu.
Comment tu vas maintenant?
Honnêtement, je vais très bien. C'est une libération. Quand j'ai envoyé ce texte-là, j'ai parlé à Mitsu. Elle me dit « Quand est-ce que tu veux que je le publie? » J'ai dit « Je suis prêt. » Mon père ne le savait pas, ma sœur ne le savait pas, mes amis les plus proches ne le savaient pas.
Les as-tu avertis avant
la
publication?
Oui, je les ai avertis avant la publication. J'ai reçu une énorme dose d'amour. Mais j'étais prêt. Je me sens libéré. Je me sens bien. Ça va très bien pour vrai.
Comment ton père a réagi? Parce que spontanément, c'est le premier que tu as mentionné.
Mon père, c'est un homme, puis un homme hyper important pour moi, puis je voulais tellement pas le déplaire. Puis il m'a écrit un magnifique texte, un beau poème, comme lui seul est capable de le faire, que je vais toujours garder, puis ça finit par « De ton père qui t'aime ».
Alex, merci. Alex Marcellet, tu as publié un texte important sur le site de Mitsu Magazine. J'invite les gens à aller le lire. C'est un texte d'un grand courage aussi.
Très gentil. Puis j'invite vraiment, on peut s'en sortir. Je veux que les gens aient ça en tête. On peut s'en sortir. Il faut juste trouver qu'est-ce qui nous allume, mais on peut s'en sortir.
Merci, Alex.
Merci.
C'est un privilège
beaucoup
de t'avoir reçu.
Merci beaucoup.
C'était Alex Marcel.
Patrick Lagacé en accéléré.
De Québec maintenant.
Le légendaire son du métro de Montréal. Et on le sait, il y a de plus en plus de reportages et de commentaires d'usagers aussi disent ressentir de l'insécurité. Mais on le sait, l'insécurité, c'est un sentiment qui est à la fois précis et imprécis. Il y a des gens qui sont en situation d'itinérance dans le métro et qui contribue à ce sentiment d'insécurité. Beaucoup de gens qui disent voir des choses troublantes quand c'est pas se faire crier après, des fois se faire bousculer. On sait qu'il y a des gens, des utilisateurs du métro dans les dernières semaines, là, il y a eu des cas assez médiatisés, qui ont été victimes de violences. Tout ça mène à la question, qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que le métro est sécuritaire? Annie Savage est directrice au réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM. Elle est au bout du fil. Annie Savage, bonjour.
Bonjour.
D'abord, j'aimerais ça commencer par vous demander votre lecture de ces reportages qui font écho à des gens qui disent se sentir pas en sécurité dans le métro à Montréal.
Ben, écoutez, il y a malheureusement beaucoup d'amalgames qui se font, nonobstant le sentiment de sécurité qui est impacté. Présentement, on peut pas faire fi des cas d'actualité. On a tous entendu parler. Par contre, et Madame Collard en parlait dans sa chronique, la violence, la sécurité, ça concerne beaucoup et surtout même les personnes qui habitent la rue, qui sont les premières victimes. Et bien que il peut avoir des agressions commises parfois par des personnes en situation d'itinérance, nous, on entend surtout le contraire, des cas d'agression sur les personnes qui habitent la rue, des attaques en plein milieu de la nuit, et la preuve étant que le même jour où le triste événement de l'agression dont on a tous entendu parler par la fille de Mme Collard, le même jour, un homme en situation d'itinérance s'est fait attaquer par des enfants. Donc, il faut vraiment faire attention. Ça, c'est la première chose, distinguer violence, agression, puis les policiers le disent eux-mêmes, la ville de Montréal, le centre-ville plus précisément, est quand même parmi les villes les plus sécuritaires.
Mais Annie je vais vous donner un bémol. Je vais vous donner un bémol là-dessus, Annie, si vous permettez, OK? Je comprends que Montréal est peut-être plus sécuritaire que New York ou d'autres villes, mais c'est comme me dire que nos pauvres sont moins pires que dans un pays du tiers-monde.
Écoutez, est-ce qu'on peut s'améliorer? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une détresse? En hausse, bien sûr. Est-ce que moi, comme parent, quand je laisse ma fille prendre le métro de 16 ans après 8 heures le soir, je suis inquiète? Bien sûr.
L'êtes-vous plus qu'avant?
Oui, parce que toute l'actualité, la manière dont les médias rapportent les situations, bien sûr que ça a un effet sur moi.
Non, OK.
Et ça, on
Annie,
est des humains. Hein?
Annie,
mais il faut faire attention.
Annie,
pour pas que nos
on s'est souvent parlé, vous et moi, OK? Puis vous me lisez, je pense, là. Je suis pas... pas dans la dynamique de faut faire le ménage. Mais je vous écoute, là, puis c'est pas la première fois, là. J'ai l'impression que vous dites aux gens qui vivent de l'insécurité, qui sont très mal à l'aise de se faire crier après par des gens divorcés de la réalité, qui devraient juste prendre leur gaz égal.
Effectivement, moi,
parce que quand vous me dites c'est les médias, là, m'excuse.
Non,
au début du show, j'ai parlé d'un site de discussion sur le forum Reddit. 330 personnes qui ont témoigné, c'est pas les médias, c'est pas un sentiment qui est inventé, cette affaire-là.
Non, pas du tout, je vous dis pas que c'est inventé. Par contre, faut pas laisser nos peurs empiétrer sur la raison. Et en ce moment, ce que je vous dis, moi, c'est qu'effectivement, notre sentiment de sécurité est impacté par des situations qui se passent dans la société. Et effectivement, le métro, les rues de Montréal sont une espèce d'échantillon de la société où il y a une hausse de la détresse. Ça, c'est clair. Et malheureusement, quand on vit de la détresse et des dénis de droits, et quand malheureusement le réseau de la santé nous a abandonnés, le système nous abandonne, ça se peut que ça se témoigne parfois en situations qui sont malheureuses. Après, moi, tout ce que je dis, c'est il faut s'attaquer aux causes et non pas aux personnes qui sont les victimes du système et les dommages collatéraux d'un système qui les a complètement abandonnés. Monsieur Lagacé, en ce moment, il manque cruellement, et ça depuis plusieurs années, des lieux d'accueil pour les personnes qui habitent la rue. Et ceux qui consomment, ceux qui ont des enjeux de santé mentale, c'est encore plus difficile pour eux de se trouver une ressource. Et les groupes communautaires sur le terrain, là, ils peuvent pas pallier à un manque et un abandon presque complet par nos gouvernements en lien avec la crise du logement.
Qu'est-ce que vous pensez de la fermeture peut-être prochaine du refuge de l'Hôtel Dieu, là? Parce qu'il y a des personnes itinérantes qui sont là, qui sont hébergées. Il semble qu'il y en a qui vont peut-être se ramasser à la rue.
L'Hôtel Dieu va fermer. C'est extrêmement préoccupant parce que c'est 186 ou 187 personnes qui étaient logées 24 heures sur 24, nourries, soutenues, accompagnées dans la recherche d'un logement qui n'existe pas, by the way. Hein, on va commencer par ça. Les groupes communautaires travaillent très fort, puis je salue d'ailleurs les organismes qui ont porté l'Hôtel Dieu pendant un bon bout de temps. On le savait que c'était une ressource non permanente. On le savait qu'à un moment donné, ça allait fermer ça. Bon, les groupes qui portaient cette ressource-là vont peut-être pouvoir déployer des efforts dans des locaux permanents dont ils seront propriétaires, hein, et accueillir peut-être à plus petite échelle dans votre lieu les personnes. On le souhaite. Mais est-ce qu'il va avoir un effet dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal où il n'y a rien, il n'y a pas d'autres ressources qui peuvent accueillir les gens 24/7 comme l'Hôtel Dieu le faisait? C'est sûr que c'est préoccupant. Mais le problème, là, c'est pas les personnes qui vont habiter la rue puis qui n'auront pas de lieu d'accueil, hein.
Mais Annie,
le problème, c'est les gouvernements qui investissent massivement pour régler les enjeux.
Je veux vous entendre sur un autre aspect du problème. On parle beaucoup de logement et il faut en parler. Je veux qu'on parle de la drogue actuelle. Est-ce que je me trompe ou de nos jours, il y a des drogues qui rendent les gens beaucoup plus divorcés du réel et qui les poussent, évidemment, davantage vers la rue qu'à une certaine époque?
Écoutez, c'est ce que j'entends. C'est ce que nos groupes en réduction des méfaits nous rapportent. Moi, je suis pas une experte de la réduction des méfaits, mais effectivement, c'est ce qu'on entend. Ceci dit, moi, je consomme pas de drogue, hein, mais si je passe 24 heures dans la rue, puis pas besoin d'être à moins 35, là, juste besoin de me faire déplacer 4-5 fois dans la même journée, soit par des policiers, des intervenants, mais sans jamais avoir de réponse à mes besoins, sans jamais avoir une solution, que ce soit un logement, que ce soit un lieu d'accueil qui répond à mes besoins. J'ai pas besoin de consommer de la mauvaise drogue pour devenir...
Pour se désorganiser.
Désorganiser, effectivement. Ouais. Donc, puis la consommation, souvent pour les personnes qui habitent la rue, c'est une façon de passer à travers une réalité qui est loin d'être facile. Donc, puis là, on pourrait parler de santé mentale. Est-ce que les personnes, tu sais, la santé mentale, est-ce que ça se dégrade à force d'être justement dans la rue et ne pas pouvoir voir là un avenir plus joyeux? Puis moi, j'aimerais ça, si vous me permettez, de parler de financement.
Hein? Annie, je m'excuse, là, il va falloir que je vous coupe, mais je vais, parce qu'il faut que je passe à la chronique culturelle. Ceci étant dit, OK, je vous promets, je vais vous inviter en studio, on va se faire une longue conversation, parce que c'est tellement un sujet qui est multifactoriel, l'itinérance, là. Des fois, c'est dur, c'est dur de régler ça en 8 secondes.
C'est effectivement multifactoriel, puis nos financements, présentement, sont sectoriels et vraiment pas suffisants pour répondre aux besoins. Des personnes qui n'ont pas juste un enjeu de consommation ou un enjeu de trouver un logement décent ou un enjeu de santé mentale. Des fois, c'est tout ça à la fois, puis nos gouvernements ne sont pas capables de s'adapter à ces réalités-là et à financer à la hauteur des besoins les groupes qui pallient à leurs propres manquements.
Je vous promets qu'on vous invite très bientôt en studio. Merci, Annie.
Je vous remercie.
À la prochaine. Annie Savage, qui est directrice au réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Québec agit, tente d'agir pour juguler les vagues d'intimidation, de menaces dont sont victimes les élus municipaux, oui, mais aussi les élus au provincial. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a déposé un projet de loi aujourd'hui qui ambitionne de mieux protéger les élus qui sont victimes de propos haineux, de menaces, etc., avec des amendes qui pourraient s'élever jusqu'à 1 500 $. Mon ami Maxime Pedneau-Jobin est l'ex-maire de Gatineau. Il est aussi auteur et chroniqueur. Salut, Max!
Bonjour, Patrick.
OK. T'as lu les détails de ce projet de loi-là. Est-ce que ce problème-là peut être réglé par un projet de loi provincial?
C'est pas complètement, ça, c'est sûr. Mais c'est un pas en avant, puis c'est un message assez puissant. Moi, je suis content parce que, tu sais, souvent, on se dit, c'est la démocratie, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, que, tu sais, que les politiciens s'arrangent. Qu'est-ce qu'on met en danger si on fait ça? Ben moi, je trouve que c'est important. Puis le projet de loi, je ne suis pas un avocat, mais des mots quand même assez forts. T'sais, il faut que la personne entrave l'exercice des fonctions d'un élu en le menaçant, en l'intimidant, en le harcelant. Il faut que l'élu craigne raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité. Puis à ce moment-là, il peut avoir des amendes de 500 à 1 500. T'sais, le message qu'on envoie, c'est que l'élu a le droit d'être capable de travailler. Fait que moi, je trouve que c'est un pas intéressant parce qu'avant, on était assez démunis face à ça. Mm-hmm. Il fallait que tu poursuives, ça prenait des années, puis
mais
les gens...
Maxime, excuse-moi de t'interrompre, mais je lisais les commentaires autour du projet de loi et je dois te dire, quand ce que Québec vise à contrecarrer, il me semble que ça tombe dans le registre du code criminel. Tu peux aussi aller à la police?
Oui, absolument, absolument. Là, je pense qu'une des différences, c'est que là, la Cour va devoir instruire et juger d'urgence la demande d'injonction, là, pour dire... on veut plus que cette personne-là ait des liens avec nous, on veut plus qu'il nous écrive, on peut. Donc, je comprends que le sentiment d'urgence, le législateur veut le mettre dans la loi. Puis ça aussi, je trouve ça intéressant. Il y a des cas, là. Il y a eu un cas spectaculaire, c'est un dossier par Isabelle Haché à la Macasa. Je sais pas si tu t'en souviens.
Oui,
mais...
oui.
Si je veux dire, c'était tout le monde. Tout le monde avait peur, là, du citoyen
en fait,
qui avait assez peu de recours.
L'hôtel de ville était aux prises avec un citoyen quérulent, menaçant. Parce qu'il marchait sur la fine ligne entre ce qui est, disons, extrêmement virulent puis ce qui tombe dans le code criminel, ben il s'en tirait toujours.
C'est ça. Puis il y a une fine ligne. Puis c'est là où le projet de loi... je voyais aussi des commentaires. Tu sais, les gens s'inquiètent en disant, est-ce que c'est une façon de museler les citoyens? Est-ce que c'est une façon de les faire taire? Moi, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment des abus, que c'est un juge qui va trancher. Tu sais, c'est pas la ville elle-même qui va dire, OK... c'est terminé, vous communiquez peu avec nous. Puis il y a toute une série de choses que le juge pourrait ordonner. Là. C'est de ne pas se trouver dans le bureau du conseiller ou du député, de ne pas se présenter aux séances du conseil, de cesser de communiquer avec l'élu. Ça fait que ça peut être dosé, là, ou en tout cas, ça peut être une espèce de gradation qui est faite par le juge.
Mais Maxime, ce qui m'inquiète là-dedans, là, c'est qu'est-ce qu'on va permettre... Comme injure, qu'est-ce qu'on permettra pas? Moi, j'ai pas vraiment d'atomes crochus avec les gens qui exagèrent, qui insultent, etc. Mais avant même qu'on commence à parler de ce problème-là, autour de 2019, là, il y a des municipalités, je pense à Granby, par exemple, c'est à Sherbrooke. On a adopté un règlement où on pouvait infliger des amendes aux gens qui injuriaient des élus, même sur Facebook. Moi, j'ai peur un peu que des gens qui sont juste, disons, qui parlent fort, se fassent sanctionner, alors que c'est pas vraiment du harcèlement.
Oui, puis c'est pour ça que ça prend un juge. Ça peut pas être le politicien lui-même. Moi, des mesures comme ça prises par des villes, moi, je suis pas d'accord. Tu sais, la vie démocratique, elle est toujours un peu intense, là. Les élus, moi, je pense, doivent apprendre à se contrôler eux-mêmes. Puis on doit être plus tolérant envers un citoyen parce que le citoyen, c'est pas son travail faire de la politique. Ça fait qu'il pète les plombs un petit peu de temps en temps. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut apprendre à tolérer en vie démocratique. Mais là, qu'on n'est plus là. Tu sais, je regardais encore, c'était la presse qui disait que la Sûreté du Québec en 2019 avait eu en 2021 avait eu 400 signalements. C'était 25 fois plus que 2 ans auparavant. Il faut aussi qu'on protège. Fait qu'il y a un danger de faire taire le citoyen, mais aussi il y a un danger de dire les gens, ils ne voudront plus faire de la politique. Là. Je veux dire, si tu ne te sens pas en sécurité, il faut que tu aies des recours. C'est aussi dans notre intérêt collectif que les politiciens disent non, moi, je ne suis pas capable de faire mon travail à cause de ce gars-là. Là. Il faut qu'il y ait des recours, puis là, il y en a très, très peu.
Idéalement, qui devrait décider? Qui devrait trancher? Au criminel, t'as un juge qui regarde les faits et qui dit si la personne, hors de tout doute raisonnable, a commis un crime. Là, on est dans l'administration, on est dans le pénal. C'est un peu comme une infraction au code de la route, là, si j'ai bien compris. Qui devrait trancher à savoir si un élu a bel et bien été harcelé au sens de la loi?
Mais pour moi, ça ne peut qu'être un juge. Là, ce que je comprends, c'est que le recours peut être fait par l'élu, par une ville, par le directeur général des élections, mais c'est la Cour qui tranche à la fin. Puis ça, pour moi, on s'en sort pas. Faut pas que le monde municipal soit juge et parti. Il y a des gens qui sont fatigants, puis très, très, très fatigants, mais qui défendent une cause qui est correcte. Des fois, ils le font malhabilement, mais c'est ça la démocratie. Il y a toutes sortes de monde. Là.
Maxime, tu as fait quoi, 12 ans en politique à Gatineau, 4 ans comme conseiller, 8 ans comme maire? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent la nouvelle génération de politiciens, ils n'ont pas la couenne épaisse, puis il faut avoir la couenne épaisse pour être dans la vie publique?
Il y a un peu de vrai dans le sens qu'il faut avoir la couenne épaisse. Là, la politique, c'est l'institutionnalisation du conflit. T'sais, au lieu de se donner des rushs, on met le problème dans un processus démocratique, puis à la fin, il ressort une décision. Ben ça, c'est jamais simple. Ça fait qu'on peut pas s'en aller en politique en disant ça va être le fun, tout le monde va s'aimer tout le temps. Puis t'sais, moi, je pense que les gens, surtout en politique municipale, prennent pas la politique municipale assez au sérieux. T'sais, ils pensent que ça va être facile. Ça fait que, d'un côté, il y a prenez ça au sérieux, là. Gatineau, c'est 800 millions de budget. Là. Il y en a des problèmes. Là. C'est itinérance, lutte à la pauvreté, développement économique, développement social, nid de poule d'eau dans rue Magané. C'est complexe. Mais en même temps, il y a des affaires qui sont intolérables. T'sais, moi, il y a une année, j'ai eu trois fois des menaces de mort. Ben, j'ai appelé la police. T'sais, quand tu te fais insulter la nuit, quand tu te fais... À un moment donné, ça prend des recours. Fait que c'est beau avoir une carapace, mais il faut aussi être capable de se débarrasser des gens qui sont des quirulants, là, qui sont des gens qui nuisent à notre capacité de travailler.
Explique aux gens, parce qu'on dit ça, Maxime, ah, j'ai reçu des menaces de mort. Explique aux gens ce que ça a comme impact dans la vie d'une personne comme toi qui était maire à cette époque-là.
Ben, je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit, puis que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai eu des menaces de mort d'un itinérant, tu sais, qui était assez jeune, assez raide, fait de force. Fait que, tu sais, si disjonctait, là, j'avais pas ben des chances devant lui. Mm-hmm. Bon, ben, je me suis vu moi-même, il y a quelques semaines, barrer ma porte d'auto parce que j'étais à un endroit proche de là où il y avait des itinérants. Ben, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Tu sais, c'est du monde qui sont fins la plupart du temps. Tu peux communiquer avec, tu sais, il n'y a pas, mais, fait que tu finis par avoir peur de choses dont tu n'avais pas peur avant. Tu fais des assemblées publiques, tu fais des salles, comme on dit, tu rentres dans des foules, puis tu penses à ces affaires-là. Ça fait que la menace, la violence, tu sais, quand tu commences à avoir peur de parler au monde, là, puis là, je ne dis pas que c'est mon cas, moi, c'est un cas un peu particulier, mais il y a des gens qui rentrent dans des foules puis sont nerveux là, parce qu'ils savent qu'il y a un certain nombre de personnes qui pourraient se disjoncter puis qu'il y en a de plus en plus. Ça fait que ça met en danger notre capacité d'aller voir le monde, de parler aux gens, d'échanger avec eux directement. Ça donne le goût de te cacher dans ton bureau puis faire de la politique à distance. Fait que ça, c'est une vraie menace à la démocratie. Parce que si les politiciens ont peur de parler au monde, ça va mal. Là. T'es supposé les représenter puis travailler pour eux.
T'avais déjà fait de la politique avant le municipal, dans le sens où t'avais travaillé dans des bureaux politiques, t'avais travaillé dans des bureaux de comté, t'avais fait des campagnes électorales en Outaouais. As-tu l'impression que les réseaux sociaux ont été comme une grosse canisse d'essence sur un feu qui avant était gérable?
Ah, absolument, absolument. Moi, une des menaces de mort que j'ai eues, c'est un gars qui reçoit son compte de taxe, il est en maudit, il va sur Facebook puis il dit des affaires qu'il n'aurait pas dû dire là, parce que la police est allée le voir chez lui. Ben avant, ça restait dans sa maison. Il parlait de ça au bar avec ses amis, peut-être au café, au bureau. Là, c'est sur Facebook, c'est un lieu public. Il y a un potentiel de milliers de personnes qui voient ça. Moi, je trouve que c'est ça la grande différence. Avant, tu sais, t'écrivais une lettre au rédacteur dans le journal. Il fallait que tu prennes le temps de l'écrire, de l'envoyer. Tu peux te reposer, changer d'idée, dire « bon, j'exagère ». Le gars qui a lisé à l'autre bout pouvait dire « veux-tu vraiment publier ça ?» Là, ça s'envoie direct sur les médias sociaux. C'est exactement ça. C'est qu'il y avait un feu qui couvait, puis on a jeté des bidons d'essence dedans. Puis il faut apprendre à dompter ça. T'sais, ça disparaîtra pas. Mais il faut que les gens apprennent à se contrôler, qu'ils comprennent qu'ils sont dans un lieu public, qu'ils comprennent que oui, tu peux attaquer le politicien, mais c'est sa famille, c'est ses enfants qui lisent ça, là, qui voient ça. C'est sérieux, là, ça affecte la vie des gens. Puis c'est comme si les médias sociaux, c'était pas vraiment vrai pour le monde. Ben, faut qu'on dompte la bête, parce que sinon, ça a des conséquences sur notre vie démocratique des deux bords. Là.
Bref, c'est plus reposant d'être auteur et chroniqueur que maire.
Ah, c'est un grand plaisir. Moi, si les gens sont pas d'accord avec ce que je dis, ça me dérange plus.
Merci, Maxime.
Salut.
Salut. Maxime Pedneau-Jobin, l'ex-maire de Gatineau. Donc, le projet de loi de la mairesse, de la ministre André Laforêt, là, qui va suivre son cours dans la machine à saucisses parlementaire. On va en parler dans les prochaines semaines.
Patrick Lagacé, en accéléré. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
Offenbach a été le groupe québécois traversant mode et changement de musicien.
Du rock'n'roll en français comme jamais aucun ne l'avait fait auparavant. Jerry Boulet, le chanteur et l'âme du groupe.
Malheureusement, à l'apogée de ce groupe-là, il y a eu la séparation.
Vous voyez que Jerry commence à prendre trop de place.
Moi, je pensais que ça prenait du sang nouveau. Ils voulaient pas, mais je trouvais avoir du sang nouveau, on s'en allait.
Ils ont fondé Corbeau en 77. Ils trouvent l'idée d'aller chercher une chanteuse. Marjolaine Morin, Marjo. Il y a une compétition qui s'installe là, au Québec.
Jerry avait l'impression qu'il s'est fait abandonner par ces gens-là et que là, il voulait prendre sa place.
Tu vas faire des bêtises dans les rues de Montréal.
À ce temps-là, c'était une guerre entre Offenbach et Colmeau.
C'est un extrait d'un documentaire fascinant.
Avoue qu'on les chanterait toutes les chansons.
On les connaît. Ça s'intitule « Québec rock, Offenbach contre Corbeau ». Et le documentariste Félix Rose est avec.
Oui, bonjour Félix.
Oui, bonjour.
Écoute, on t'a connu pour un autre documentaire qui se nommait « Les Roses ». Il y a un point quand même de commun entre ce documentaire-là et celui des Roses. Pierre Harel. Pierre Harel avait fait un court-métrage documentaire sur le lundi de la matraque.
Exact.
Et c'est comme ça que tu as eu ton point d'entrée pour aller parler de Corbeau et d'Offenbach?
Oui, parce que c'est pas un univers que je connais. Moi, j'ai grandi, évidemment, comme tout bon Québécois, avec cette musique-là. Ça a meublé mon enfance, mais j'en savais pas plus. En rencontrant Pierre Harel, j'ai tout de suite été fasciné par le personnage, parce que moi, je m'attendais une légende du rock. Il a écrit « Faut que je me pousse », il a écrit des grandes chansons, et je me retrouve avec un homme qui travaille au Canadian Tire à Québec. Donc déjà là, je me suis dit « OK, là, c'est pas qu'est-ce que je pensais ». Et en parlant avec lui, tout ça, j'ai réalisé que ce gars-là, il était la bougie d'allumage d'Offenbach et de Corbeau, mais il s'en allait toujours avant le succès. Puis là, je me suis dit, OK, il y a une histoire à raconter. Puis en partant de lui, j'ai rencontré tous les membres d'Offenbach et de Corbeau. Et j'ai vu que, OK, il y a une tension qui était palpable, parce qu'il faut comprendre que Corbeau a été fondé par des transfuges d'Offenbach. C'est du monde qui se sont chicanés avec Jerry Boulet, parce qu'il n'était pas content pour certaines
musicalement,
affaires.
Musicalement, principalement.
Exact. Puis là, ils ont fondé un autre band. Ils sont allés chercher une fille, Marjo. Puis là, c'était la guerre. C'est qui? Il n'y a pas assez de place pour deux bands de rock au Québec. Et c'est qui le meilleur?
Est-ce que on constate cette rivalité-là maintenant, des années plus tard, ou tout le monde savait ça à l'époque?
À l'époque, c'est sûr qu'au début, ça sentait dans les coulisses, mais ça sentait chez les admirateurs, parce que pour certains, t'étais soit Offenbach ou soit Corbeau.
OK.
Pas toujours
Coke
les deux.
Ou Pepsi.
Ouais, Coke ou Beatles, Rolling Stone.
OK.
La batte au kiff, c'est ça.
Puis, OK, on dit que les groupes, ce que j'ai trouvé étonnant quand j'ai regardé le premier épisode, c'est qu'on se rend compte que c'est pas juste Jerry et Marjo, qu'ils étaient tous les deux, évidemment, les porte-étendards de leur groupe, mais la musique, ça faisait vraiment avec les autres membres du groupe. On parle, entre autres, avec le frère de Jerry. Tu sais, dis-moi, j'en ai fait en tabarouette de la musique, là.
Mais ça, c'est un peu l'histoire de tous les groupes. Souvent, c'est vu que c'est les chanteurs qui sont à l'avant-plan, c'est souvent eux qui connectent le plus avec ceux qui écoutent la musique, mais il reste que c'est pas juste deux chanteurs, c'est deux groupes. Puis admettons, le son d'Offenbach, ça a été inventé par Johnny Ravel, puis c'est lui qui a fait ce son-là. Donc moi, je voulais mettre la lumière sur ces gens-là qu'on connaît pas, qui ont fait cette musique-là, mais qui sont dans l'ombre, et parce que je crois que c'est une histoire vraiment, c'est des gens qui avaient des choses à dire, puis c'était là ou jamais, parce qu'ils sont assez âgés, t'sais.
Félix, je te regarde là, puis t'es plus jeune que moi. Moi, j'ai vécu ça de loin parce que j'étais très jeune. Tu sais, j'ai aimé Offenbach parce que j'allais aux Deux Pierrots puis j'entendais
plus
des
tard,
tunes
quand
beaucoup
on était
plus tard.
Au cégep.
On était plus contemporains. Toi, comment c'est venu sur ton radar de jeune homme ces deux groupes-là puis cette histoire de rivalité?
Mais faut comprendre cette musique-là, elle a circuler de génération en génération. Moi, je suis né en 87. En 97, c'est Offenbach avec Martin Deschamps. Puis c'était gros, là.
C'est
Martin
vrai,
Deschamps,
c'est vrai.
Là, pour les gens de mon âge, a relancé le catalogue d'Offenbach. Et encore aujourd'hui, les deux dernières Saint-Jean, Québec à Montréal, c'était spécial Offenbach Corbeau avec Marjo Bruyne-Leboeuf. Donc, ça, même si j'étais pas né, ça l'a comme circulé de génération en génération.
T'es déjà interviewé les protagonistes. Est-ce qu'ils sont difficiles à interviewer? Des rockers, c'est parfois dur d'approche.
Oui, c'est là qu'il y avait peut-être un parallèle à faire avec mes autres projets sur le FLQ. C'est des gens que ça m'a pris du temps avant de gagner leur confiance. On parle d'années pour certains, parce que c'est pas des gens forcément très loquaces, mais une fois qu'ils te font confiance, ils sont très généreux. Puis qu'est-ce que j'aime avec les rockers, c'est qu'il n'y a pas de vernis.
ça dit les choses telles qu'ils sont. C'est un langage brut, coloré. S'ils n'aiment pas quelqu'un, ils vont te le dire. Ça, on n'est pas toujours habitué à une telle franchise. C'est ça qu'on retrouve dans la série.
Mais même Marjo, tu sais, on la voit, elle est encore médiatiquement très en avant. Marjo, c'est pas non plus une femme qui parle facilement, là.
Non, non,
ça s'est passé comment, tes rencontres avec elle?
La première chose qu'elle m'a dit, non, jamais de la vie.
Puis après, c'est que ça a le mérite d'être clair.
Ouais. Puis après, c'est moi, je suis un gars patient. Là. Ça a pris 3 ans faire le projet. Tu sais, je lui écrivais peut-être aux 4-3 mois. Puis à un moment donné, elle a accepté de me rencontrer.
Pourquoi, sais-tu?
Je sais pas. À un moment donné, elle a dit, ok, je vais le rencontrer. Là. Il est fatigant, là. Il est achalant. Là. Elle me rencontre, puis ça a connecté. Vraiment, là, elle a vu que l'idée, c'était pas juste parler du négatif, mais du positif. Et qu'est-ce que je trouve important avec Marjo, puis le monde, pas tout le monde qui savent ça, c'est pas juste une chanteuse, c'est une grande parolière. La majorité des chansons
c'est
de Corot,
c'est elle qui les écrit.
C'est elle qui les a faites. Puis moi, j'ai dit, Marjo, la chanteuse, on la connaît. Moi, avec toi, j'aimerais ça qu'on explore les textes, ton côté parolière. Puis je pense que ça, elle a aimé ça.
Dans la presse, je lisais, il y avait un article hier qui parlait justement de la série documentaire qui disait que justement, via Marjo, les gars de Corbeau ont appris à s'aimer.
Oui.
Puis je trouvais que c'était une super belle phrase parce que il n'y avait pas tant d'amour entre les gars. Les gars étaient unis par faire de la musique, mais c'était pas des gars qui s'aimaient profondément. Puis elle a apporté ça avec le groupe.
Mais Marjo, c'est une force positive parce que Offenbach, là, pour vrai, c'est des gars qui sont pas faits pour être ensemble. C'est des gros égos, c'est des chicanes. Leur point commun, c'est la musique. Mais quand Marjo, elle arrive, elle révolutionne le rock au Québec parce qu'elle n'avait pas de femme qui était à la tête d'un groupe comme ça, là. Et elle amène une dimension féminine. Et les gars, même si on peut se douter qu'il y avait un peu de machisme là-dedans, tu sais, du des rockers, ils ont embarqué dans la proposition de Marjo parce que Marjo, c'est une fille qui prend le micro, qui prend la place, qui prend la parole. Puis c'est grâce à elle. Corbeau, ça marchait pas avant que Marjo arrive. Quand Marjo arrive, là, ça l'a décollé, ça n'a pas pris 3 minutes, paf, c'était dans le ciel.
Félix Rose, tu as aussi fait le documentaire, on le disait tantôt, Les Roses. Donc, ouais. Évidemment, c'est un documentaire de famille, mais c'était aussi, au-delà des Felkistes, c'était un documentaire sur une certaine époque du Québec. Qu'est-ce que tu as appris sur le Québec en plongeant dans la rivalité Corbeau-Offenbach?
Mais c'est tout le côté un peu, admettons, avec les Roses, c'est un aspect, on va dire, de la révolution tranquille. Oui. Mais là, on est dans la révolution culturelle, musicale. Ça s'est fait beaucoup dans la musique. Puis Offenbach, moi, une des raisons pourquoi il m'attirait, c'est que c'est des marginaux. Puis ils n'étaient pas connectés avec les autres courants musicaux, là. Eux, ils ont inventé un son, mais aussi, c'est les premiers à chanter en joual à l'époque où le français...
En français, québécois.
C'est ça. Pierre Harel, là, il a mené le monde là, au Centre Paul Sauvé, il chantait, puis le monde pensait qu'il chantait en anglais parce qu'on n'était pas habitué à ce son-là. Puis là, il a écrit, il dit, on chante pas en français, on chante en québécois. Puis le monde, en fait, waouh! Puis grâce à eux, il y a des gens qui écoutaient pas de musique québécoise, qui ont commencé grâce à Offenbach, parce qu'ils ont inventé un son puis une nouvelle façon de chanter des chansons.
Parce qu'il faut dire, l'ancêtre d'Offenbach s'appelait Les Gants Blancs. C'est un groupe qui voulait faire carrière en anglais au début.
Mais c'est tout le temps ça, Offenbach. C'est eux, c'est des gens qui vivent là, pas loin des frontières américaines. Au début, c'était lié. Ils sont forcés de chanter en français, mais ils veulent pas. Puis des fois, là, ils se retrouvent à un moment donné à chanter dans un endroit, là, un petit bar, puis ils disent « Nous, on chante pas en français. » Puis là, le gars, il dit « Non, non, vous chantez en français. » Puis il brûle les chaises, là, parce qu'ils sont fâchés. Donc, tu vois l'évolution, c'est vraiment Pierre Harel qui leur dit « Non, les gars, on va chanter en français. » Denis Boulet quitte en partie à cause de ça, parce que lui, ça brise son rêve d'aller aux États-Unis. Mais Jerry Boulet, lui, il comprend, puis il fait la progression. Puis à la fin, là, quand il fait le dernier show, là, puis Offenbach, c'est fini, il décide de finir en français parce qu'il y avait un contrat d'un disque en anglais. Il dit non, on finit pas en anglais, on finit en français.
Félix, on va te garder pour terminer notre deuxième heure. On va continuer à parler de ce documentaire fascinant, d'une époque fascinante.
Vraiment?
Québec rock, Offenbach versus Corbeau.
Le Québec maintenant.
Et puis sous le coup de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Les yeux du cœur, c'était une chanson de Jerry Boulet et de Marjo, et c'était une chanson de retrouvailles, de réunification,
oui.
Une chanson de paix, disons ça comme ça, entre deux membres de groupe mythiques qui s'opposaient.
Oui, Rivo, Offenbach et Corbeau. Est-ce que ça a été vraiment Est-ce que ça a été vraiment ça dans la vie, l'histoire de coulisses?
Ça a été très surprenant. Tout le monde était très surpris parce que, c'était comme on sait, c'était la guerre. Puis quand Jerry a décidé de faire sa carrière solo, il a approché Marjo, justement, au bistrot à Jojo. Il a proposé de faire cette chanson-là, puis elle a dit oui. Et pour plusieurs, c'était la réconciliation du rock'n'roll. Mais dans les coulisses, il y a des gens d'Offenbach, comme Johnny Ravel, qui dit dans le documentaire, moi, je n'étais pas content de ça. Là. Je ne l'ai pas pris.
Pour vrai?
Oui, il y en a qui l'a perçu comme une trahison, là, qu'est-ce qu'il faisait. Mais pour plusieurs, c'était la grande réconciliation, puis c'est un beau moment là, parce que t'as deux légendes du rock'n'roll ensemble sur la même scène, donc ça c'est un moment marquant de l'histoire de la musique au Québec.
Félix Rose, ben, je le rappelle, tu signes le documentaire Québec Rock Offenbach versus Corbeau. Je voulais qu'on revienne sur Pierre Harel qui a fait partie des deux groupes. C'est vraiment triste parce que tu le disais en entrée d'entrevue dans le bloc précédent, tu disais moi je l'ai trouvé dans un Canadian Tire, donc il ne fait plus de musique et vit d'une façon très modeste, si je comprends bien.
Oui, comme d'autres membres, c'est ça qu'on
Oiseau
comprend.
Aussi, qui oui. était le batteur.
Oui, Johnny Ravel. Oui. Oiseau, ça, il est devenu boucher. C'est surprenant parce qu'il s'en sort mieux que d'autres. On ne pensait pas que Ringo Starr deviendrait boucher. Là.
Exactement.
C'est le cas d'Oiseau. Mais non, Pierre Harel, c'est sûr que c'est surprenant parce que ces gens-là ont peut-être mal géré leur argent. Puis il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ils ont beau remplir le forum. Et ils disent dans la série qu'il y avait de la misère à payer leur loyer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est triste.
Tu sais, je me disais, avec les droits d'auteur, Pierre Harel pourrait quand même bien gagner sa vie.
Ben, on pense. Moi, je pensais la même chose que toi, mais non, vraiment pas. C'est pas assez. Tu sais, tu reçois des fois quelques sous, mais pas assez pour gagner ta vie. Tu peux pas payer ton loyer avec ça. Donc, parce qu'il n'y avait pas les droits d'édition non plus et tout ça. Non, non, c'est sûr. Il y en a beaucoup là-dedans que c'est. Tu sais, Johnny Gravel, il habite vraiment très modestement dans un appartement qui est conçu pour les gens à petite taille aussi. Là. Tout arrive dans le milieu. Tu sais, ils sont tous... non, c'est surprenant. Willy Lamotte, il est vécu, il est décédé. Il n'y avait plus rien. Là. Je veux dire, il n'y avait rien à lui, rien à léguer.
C'est ça, on oublie ça. Tu sais, ils ont été des rockstars, mais contrairement à des rockstars du marché anglophone ou de la grande francophonie...
Ils peuvent vivre de leur rente.
Tu sais, je veux dire, il y a des chanteurs, des paroliers dans ces années-là qui se sont qui ont assuré leurs arrières financières là, de façon magistrale. Mais au Québec, le marché est petit. Pas sûr qu'il y a grand monde qui pouvait gagner sa vie à long terme avec ça.
Non, souvent dans les groupes, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les chanteurs, parce qu'après, ils peuvent continuer avec une carrière solo, peuvent faire plein de spectacles.
Ouais.
Mais les musiciens au Québec, il y en arrache.
Hey, il nous reste 30 secondes. Je voulais juste te dire, on parle de drogue en masse hein, dans la série documentaire.
Il n'y a aucun tabou là-dessus, vu que c'est pour vrai. Ils disent justement, puis on comprend que ça l'a aidé la créativité, mais ça le nuit à l'ambiance du groupe, parce que c'est sûr que ça a amplifié les chicanes. Puis la drogue est aussi au cœur des deux séparations des deux groupes.
Merci
ah oui,
beaucoup.
Hein, la drogue est au cœur des... Ah, intéressant. Ouais. Parfait. Je vais m'empresser d'aller voir ça. Merci beaucoup, Félix.
C'est sur Vrai, la plateforme Vrai depuis hier. Mais Félix Rose, fantastique ouvrage.
Merci.
On en apprend beaucoup.
Merci
bravo, bravo. C'était Félix Rose.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.